C'est un plaisir de vous retrouver ce matin et j'en profite, même si Emmanuel vous a salué, mais en tous les cas de vous saluer aussi. C'est un plaisir de pouvoir participer à ce culte. Et ce matin, en chantant ce chant et ce verset qui dit « Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt pour y être sauvé », pour moi c'était un verset qui ce matin résonnait parfaitement juste. J'avais envie de me retrouver ce matin dans un lieu où je pouvais être en présence de Dieu, non pas pour être jugé, non pas parce que je devais faire quelque chose, mais parce que c'est un lieu de paix. C'est un lieu où le Seigneur nous accueille dans son amour et dans sa bonté. Et il se souvient que nous ne sommes que poussière, que nous sommes faillibles. Et donc j'espère que pour vous aussi, en chantant ce chant, et en pensant à la raison pour laquelle vous êtes venu ce matin, c'est que vous ayez à cœur de vous retrouver dans cette simple présence du Seigneur, notre ami, notre frère, lui qui est venu nous chercher parce qu'il nous aimait, lui qui a traversé des monts et des vallées, qui a peut-être surmonté des choses extrêmement difficiles, dont probablement notre résistance et notre rébellion, pour venir nous trouver et dire « Écoute, viens en ma présence, je t'aime ». Et j'espère que nos cultes puissent de plus en plus être des moments comme cela où nous pouvons profiter et jouir de la présence du Seigneur. Mais ce qui va en parallèle avec cette jouissance de la présence du Seigneur, c'est que le Seigneur nous a parlé par sa parole et nous a révélé des choses absolument extraordinaires. Et que si nous sommes un tout petit peu méticuleux et vigilants, on regardera. Et on plongera nos regards dans cette écriture pour comprendre des choses qui peuvent nous paraître tout à fait extraordinaires, des choses qui dépassent notre entendement, des choses que l'homme a toujours voulu savoir. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la terre? Qu'est-ce qu'il y a aux confins de l'univers? Qu'est-ce qu'il y a dans l'invisible? Est-ce que nous sommes les seuls qui existons? Et ce matin, avec Pierre, nous voulons aborder ce deuxième volet de toute cette partie de la création qui est une création invisible. Et vous vous souvenez peut-être la dernière fois, lorsque Philippe et moi parlions des anges, la première chose que Philippe disait, c'est que la création n'est pas simplement le monde visible que nous voyons. Et la création est composée à la fois d'un monde visible et d'un monde invisible. Et c'est la parole qui nous le rappelle dans l'Épître aux Colossiens, où il est dit « C'est en Christ que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. » Et même si l'Écriture ne prend pas énormément de temps pour nous expliquer un petit peu ce monde invisible, avec Philippe, on vous disait la dernière fois à quel point tous les livres de la Bible, quasiment, parle de ce monde invisible et d'êtres, d'anges et de démons qui sont à l'œuvre dans ce monde invisible. Mais la deuxième chose aussi, et ça en introduction à ce chapitre aujourd'hui où nous allons nous porter notre attention sur Satan et les démons, c'est qu'il faut bien nous souvenir que les anges, eux aussi, ont été créés très bons. S'ils sont créés, font partie de la création, les démons et les anges, eux, ont été créés très bons. Comme l'homme, comme le monde physique qui nous environne, comme les astres dans le ciel. C'est le même regard que Dieu porte sur les anges qu'il a créés que sur toute sa création, où il est dit au chapitre 1 de la Genèse, « Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. » Et pourtant, vous savez comme moi, je ne vous apprendrai rien, que l'Écriture nous parle d'un certain nombre d'êtres célestes, dont un certain Satan, qui sont des êtres en fait maléfiques, qui portent toute leur énergie à faire le mal. Et là, on ne vous apprendra rien ce matin à vous dire que dans les Écritures, comme dans d'autres religions, on parle de ces êtres maléfiques. Et ici, on a très peu de textes en fait qui nous sont... qui parle un petit peu de cela. Mais en tous les cas, lorsqu'on regarde plusieurs bribes dans certains prophètes de l'Ancien Testament ou jusque dans l'Apocalypse, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un ange qui est nommé Satan, qui est suivi de nombreux autres anges qui se sont rebellés contre Dieu. Et on a un verset dans l'épître de Jude en particulier qui constate tout simplement que des anges n'ont pas conservé leur rang et ont abandonné leur demeure qui leur était propre. Et ça, c'est un verset qui résume, dans un sens, ce qu'on trouve dans d'autres textes aussi, c'est qu'il y a eu un moment où des êtres célestes se sont dit « Je ne suis pas content d'où je suis, je veux autre chose. » Et ils se sont rebellés contre Dieu. Et j'aimerais ce matin, en fait, que nous lisions rapidement un texte du livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, qui est un des deux textes dans l'Ancien Testament que beaucoup de chrétiens s'accordent, font aussi allusion à Satan, bien que dans un premier temps, comme nous l'avait dit Philippe la dernière fois, il porte principalement sur des rois de l'époque. Mais dans ces deux textes, on a un moment où le langage devient beaucoup plus fort. Et on se dit, il y a certainement une allusion plus grande ou plus forte derrière à quelque chose qui s'est passé dans les lieux célestes. Et ici, dans ce texte d'Ézéchiel, Dieu parle à Ézéchiel et dit « Fils d'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses ainsi que d'or. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Ton cœur s'est enorgueilli, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre devant tous ceux qui te regardent, tu n'existeras plus jamais. » Et un deuxième texte dans le prophète Ésaïe au chapitre 14 n'est pas tout à fait parallèle, mais parle quand même de ce moment de rébellion d'un ange en particulier et de sa précipitation par l'Éternel et de son statut qui a complètement changé à ce moment-là. Et j'aimerais ici, et je fais rapidement quelques synthèses, et je vous encourage vraiment à prendre le texte qu'on poste sur le site web, ou ceux qui n'ont pas web, demandez-le-moi, parce que dans mes notes, je mets des versets et je mets d'autres explications qui en plus. Mais j'aimerais souligner quand même trois choses qui nous sont dites à propos de la chute de Satan. La première, c'est que, semble-t-il, au cœur de la révolte de Satan, il y a l'orgueil. Il y a tout simplement, si on prend ce verset de Jude, il nous est dit que des êtres célestes n'ont pas voulu garder et maintenir le rang dans lequel le Seigneur les avait créés. Et si on regarde dans le texte que j'ai lu, ici il nous est dit, et regardez un petit peu ce verset, tu disais dans ton cœur, là dans le siège de la volonté et de la personnalité de tous les êtres créés par Dieu comme l'homme, tu disais dans ton cœur, au fond de toi, dans ce qui te motive, « Je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. » Au cœur même du péché de Satan se trouve cet orgueil de vouloir être l'égal de Dieu. Et sans nous étendre un tout petit peu sur la définition du péché, mais simplement en regardant à ce que le premier péché a été aussi sur manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal, c'est aussi vouloir déterminer ce qui est bien et mal. Ce n'est plus vouloir accepter que Dieu dit ceci est bien ou mal, c'est de mettre l'homme au centre et de dire « moi je décide ce qui est bien et ce qui est mal ». Et là aussi, dans le cœur de l'homme, il y a ce refus du rang qui lui a été donné lorsqu'il a été créé et de vouloir se hisser dans une position qui n'est pas la sienne dans la création et ainsi se rebelle contre Dieu. Et donc, tout le long, en fait, du péché et du conflit qui se déroule dans notre vie mais qui se déroule aussi dans le monde cosmique où se trouvent les êtres angéliques, C'est en fait cette bataille entre Dieu et des êtres qui refusent de reconnaître la place de Dieu et de reconnaître que leur place est une place de créature, mais qui n'a rien d'inférieur ou de moins bien ou de quoi que ce soit. Nous pouvons être pleinement épanouis dans notre rôle de créature et dans notre position de créature. Et pourtant, là au cœur du mal, il y a ce désir d'être l'égal de Dieu. Mais ça, tout de suite, ça crée chez nous, ou provoque chez nous une certaine question, c'est à savoir, comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ? Et on se pose tous cette question. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Satan ou dans l'être même de Satan, et si on généralise un tout petit peu dans la création, qui fait que peut-être il y avait une faille à un moment qui rendait possible la révolte de Satan et la révolte des hommes ? Bien, figurez-vous que le texte d'Ésaïe ne répond pas à cette question-là. Le texte d'Ésaïe ne répond pas à la question de savoir comment et pourquoi, à un moment ou à un autre, le mal a pu faire son entrée dans le monde et dans la création de Dieu. Et tout ce que fait le texte d'Ésaïe, c'est de revenir à tout simplement « Qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur, Satan ?» Ce qu'il y avait dans ton cœur, c'était cet orgueil, cette révolte, cette violence. Et nulle part dans les Écritures, et encore moins à la lecture du texte de la Genèse au chapitre 1 et au verset 31, est-ce qu'on pourra trouver la moindre faille dans le fait que la création était parfaite et que tout était bon, pur et saint. Et c'est ici ce que beaucoup de théologiens diront, c'est là où il restera le grand point d'interrogation pour nous tous. Comment est-ce qu'il a pu y avoir à un moment l'émergence du mal dans le monde ? C'est même une question que le Seigneur lui pose à Satan. Il dit, mais comment est-ce que ça a pu advenir ? Et peut-être lors du jugement, le Seigneur dira à certains hommes, mais comment est-ce que tu as pu faire cela ? Nous, on dirait, mais Seigneur, attends, c'est toi qui sais tout. C'est toi qui m'as créé. C'est moi qui suis faible. Mais le Seigneur, lui, s'étonne aussi. Comment ? Et par le silence du texte d'Ésaïe 14, mais d'autres textes aussi, il nous est interdit de remonter en disant, Seigneur, c'est parce que tu as créé des êtres faillibles, des êtres qui pouvaient pécher. Non, ta création est pure, Satan était magnifique, il était un être extraordinaire, il te louait, te célébrait. Il est incompréhensible comment Satan a pu, dans un sens, se rebeller, comme il est incompréhensible comment nous pouvons nous rebeller contre Dieu. Mais le troisième point que j'aimerais aussi tirer de ce texte, et qui fait écho aussi, qui est repris dans un sens par d'autres auteurs du Nouveau Testament, c'est que dès la rébellion de ces anges, le Seigneur les a précipités. Dans d'autres textes, dans Jude ou dans l'Épître de Pierre, il nous est parlé qu'ils sont enchaînés. Il n'y a pas la même histoire pour les anges qu'il y a pour les hommes. C'est-à-dire que pour les hommes, le Seigneur a décidé d'entreprendre un plan complètement fou qui était le plan du salut. Et notre histoire actuelle est cette histoire où le Seigneur est en train de travailler les cœurs et où l'homme peut répondre et où il peut y avoir un rétablissement de notre relation avec le Seigneur. En ce qui concerne les anges et les démons, ce n'est pas leur histoire. Et ici, il nous est dit que le Seigneur a précipité. Dans l'Épître de Pierre ou dans Jude, il nous est dit qu'ils sont enchaînés pour le jour du jugement. Et la victoire du Christ est une victoire qui est effective sur le mal. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est encore une fois pour ne pas se dire qu'il y a deux histoires parallèles entre celle des hommes et des anges et que peut-être les anges aujourd'hui sont dans une rébellion qui est déchaînée et qu'ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Dès lors qu'ils se sont rebellés contre Dieu, le Seigneur les a déchus de leur statut, les a limités dans leur capacité et nous a dit qu'ils sont enchaînés pour le jugement. Et la victoire de Christ est une victoire sur ce monde-là. La victoire sur Satan est effective. Et j'y reviendrai un tout petit peu à ça dans quelques instants. On a parlé de Satan, mais on peut aussi parler des démons. Et comme je vous ai dit, il y a un certain nombre d'anges qui ont suivi en fait l'exemple de Satan. Alors vous avez un texte un petit peu imagé dans l'Apocalypse qui nous est dit d'un coup de queue, il a entraîné un tiers de tous les astres brillants du ciel. Alors, bon, reste à savoir encore exactement qu'est-ce qu'on entend par les astres brillants, mais beaucoup de commentateurs diront, oui, c'est quand même ce que la conséquence de la rébellion de Satan, c'est-à-dire qu'il a entraîné avec lui une grande partie, semble-t-il, des êtres célestes dans sa rébellion. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a, et là, lorsque je dis Satan n'est pas seul, ce n'est pas simplement qu'il a plusieurs manifestations, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres êtres autour de lui. Et ici, si vous regardez, par exemple, ce texte que vous connaissez bien sur l'armure du chrétien, nous sommes appelés à prendre cette armure pour lutter contre le malin et toutes les autres puissances qui existent. Satan n'est pas seul, Satan est flanqué d'un certain nombre de démons autour de lui. Mais il tient un rang assez important dans cette rébellion, puisqu'en fait, à certains moments, il est appelé le roi de la terre. Mais Jésus aussi, à un moment, dit, il les appelle les anges de Satan, dans un verset que je retrouve dès maintenant, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, où il parle du jugement dernier. Il dit, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et donc là, il semblerait qu'il y ait une sorte, sinon d'organisation, mais en tous les cas, un rassemblement des êtres célestes rebelles contre Dieu dans leur désir maléfique et de lutte contre le Seigneur, mais que Satan, quelque part, est en train de conduire cette rébellion. Mais comme je le disais tout à l'heure, leur pouvoir est limité. Et ça, c'est une chose importante dont il faut nous souvenir. La première des choses, c'est que Satan n'est pas un autre Dieu. D'accord ? On n'est pas en train de faire du noir-blanc, du yin-yang, les deux côtés d'une même pièce. Ce n'est pas un dieu bon et un dieu mauvais qui se livrent une bataille dans le ciel. On a le dieu créateur et on a un de ces êtres qui prétend et qui mène la bataille contre Dieu. Donc ce n'est pas du noir et du blanc. Et en tant que créature, on peut dire qu'aucune créature, parce que seul Dieu l'est, les anges et les démons ne sont ni omniprésents, ni omnipotents, c'est-à-dire tout-puissants, ni omniscients, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas tout. Et j'en veux pour preuve certains textes qui nous disent qu'ils ne savent pas lorsque le Seigneur reviendra. Et la raison pour laquelle je dis cela, ce n'est pas pour minimiser, mais c'est pour que dans notre tête, nous n'enfoncions pas trop non plus. Le Seigneur les a créés limités, et c'est dans le cadre de ces limites qu'ils opèrent. Mais la deuxième limite qui leur est donnée aussi, c'est celle qu'ils ne peuvent absolument rien faire sans la permission du Seigneur. D'accord ? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose sans la permission du Seigneur ? Si vous croyez que le Seigneur est tout-puissant, tout omnipotent, etc., vous ne pouvez pas. C'est la même chose pour ces êtres célestes. Et là, nous avons ce texte qui est peut-être le plus explicite à ce sujet, qui est tiré du livre de Job au chapitre 1, où à un moment, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce vraiment de façon désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Mais Dieu, porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Et là, l'Éternel dit à Satan, voici Satan, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et là, Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Et tout ce que Satan va faire après, c'est qu'il va travailler dans les mêmes confins de ce que le Seigneur lui a autorisé. Tu ne toucheras pas à Job, mais tu pourras toucher à tout ce qui lui appartient. Aujourd'hui, il est impossible pour le monde des démons et de Satan de faire quelque chose qui est au-delà de la volonté du Seigneur. Et c'est ce qui permet au Seigneur de nous faire ses promesses répétées dans le Nouveau Testament, que toutes les épreuves sont en fait aussi des moyens que le Seigneur, lui, utilise pour notre bien, et qu'aucune épreuve ne nous adviendra qui sera au-delà de nos propres forces. Non pas parce que Satan est gentil avec nous, mais parce que le Seigneur en fixe la limite et il nous connaît. Et l'adversaire ne peut pas aller au-delà de ses limites. Et la troisième chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que Satan et ses anges sont enchaînés. Et si je reprends ce texte de Pierre, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement, parce que eux aussi seront jugés. Maintenant, sans entrer dans la partie dont parlera Pierre, je voudrais simplement toucher rapidement sur quel est le rapport en fait entre notre péché et l'activité des démons et de Satan. Si eux sont dans le monde cosmique et puis cherchent continuellement à nous faire chuter, est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, comme m'a dit Ève, c'est pas moi, c'est le serpent, hein ? C'est pas moi, c'est le serpent. Alors, ça nous fait un tout petit peu sourire, ce qu'il y avait peut-être dans le livre de la Genèse, mais sauf que psychologiquement, combien de fois est-ce que nous nous retrouvons à dire dans un sens, Seigneur, c'est pas moi, c'est en fait l'adversaire qui ? Et est-ce qu'on peut, dans un sens, se défausser et dire, Seigneur, c'est pas moi, c'est encore une fois ces êtres surpuissants que tu as créés qui sont constamment en train de me faire chuter. Et là, je voudrais simplement citer quelques versets, mais peut-être aussi prendre la teneur de l'enseignement du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui nous appelle à la sanctification, c'est-à-dire à progresser dans notre foi et à vaincre le mal, en fait, n'exprime quasiment jamais la sanctification comme une lutte contre les démons et contre Satan. On n'est pas appelé tous les jours à prier contre les démons qui sont dans notre propre vie. Mais au contraire, on est appelé à se comporter d'une façon qui est digne de l'appel qui nous est adressé. C'est-à-dire que dans un sens, nous sommes appelés non pas à vaincre les démons, mais à vaincre le péché qui est dans notre propre vie. Parce que nous aussi, nous avons péché. Et le péché est aussi dans notre propre vie. Et que la sanctification est d'abord et avant tout à vaincre notre propre péché et non pas à dire, mince, encore un démon. Mince, Satan, il m'en veut aujourd'hui. Mais constamment, nous sommes exhortés. Et si vous prenez, ne serait-ce que la première épître aux Corinthiens, où il y a eu un certain nombre de problèmes de comportement dans l'église de Corinthe, lorsque Paul s'adresse aux Corinthiens, il ne leur dit pas, au moment où il y a toutes ces disputes, il ne leur dit pas, chassez l'esprit de dispute qui est parmi vous. Au contraire, il leur dit, travaillez à l'unité, expliquez-vous les uns les autres. Plus tard, lorsqu'il y aura un cas d'inceste, il ne va pas dire, chassez cet esprit d'inceste. Mais plutôt, il va dire, pratiquez une discipline dans l'église afin que cette personne apprenne à se comporter différemment. De même, pour la Sainte Cène, lorsqu'il y avait du désordre et des choses comme ça autour de la pratique de la Sainte Cène, il ne dit pas, chassez cet esprit de désordre. Mais il leur dit plutôt, soyez prévenants les uns envers les autres, attendez-vous et prenez la Sainte Cène de façon digne. Ainsi donc, faisons attention de ne pas superposer systématiquement l'action de l'adversaire sur nos propres choix et notre propre comportement, qui naît aussi de nos propres désirs. Je ne m'attarderai pas non plus sur certaines théories qui courent aujourd'hui sur la prédication de l'Évangile, qui souhaitent voir ou qui voient plutôt que la prédication de l'Évangile doit commencer par une sorte de chasser les démons. Encore une fois, la teneur de l'enseignement du Nouveau Testament, c'est que c'est l'Évangile qui est la puissance et que la prédication de l'Évangile elle-même est suffisante pour renverser les forteresses. Mais on pourrait toujours s'y attarder. Et pourtant, donc le mal ne sont pas nécessairement, pourtant, celui, il nous est dit là dans 1 Jean, que celui qui pratique le péché est du diable. Donc je ne voudrais pas exclure tout simplement le fait qu'il n'y a pas d'activité maléfique, mais il n'empêche que oui, il arrive que dans un sens, notre pratique du péché est aussi quelque part marquée par une action maléfique. Et en fait, je résumerai et je vais l'illustrer, mais il semblerait que plutôt le rapport entre notre péché et le mal, c'est tout simplement, c'est que pécher et persévérer dans le péché, c'est en fait ouvrir des brèches dans lesquelles peuvent s'enfiler les démons et persévérer. Et écoutez quelques versets, là par exemple, lorsque Paul aux Éphésiens leur dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. » Paul voit plutôt dans le péché l'ouverture que nous créons pour que l'adversaire puisse persévérer, continuer son travail et chercher à nous détruire. Dans Éphésiens 6, il nous dit « Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile, et il continue, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. » C'est dans notre comportement et dans notre foi que nous trouvons la force pour, en fait, tenir l'adversaire à distance. Encore une fois, ce n'est pas l'adversaire qui est en nous et qui est au début de notre péché, mais c'est plutôt notre propre péché qui est de la même nature que celle de l'adversaire qui laisse l'adversaire prendre prise sur nous. Et je vais m'arrêter là un petit peu en tant que principe pour laisser la place à Pierre, qui lui va aller un peu plus loin dans cette présentation.
Bon, l'heure est avancée, alors je vous en voudrais pas s'il y en a qui sont pressés, qui doivent partir plus tôt, mais c'est un sujet qui est tellement vaste, qui est tellement intéressant, et quand on commence un peu à fouiller, à méditer là-dessus, ben forcément, le Saint-Esprit révèle des choses, la parole, des passages éclatent en pleine face et nous parlent vraiment. Et c'est notre prière que ce message vraiment vous parle et qu'il ne soit pas seulement une parole, mais qu'il se traduise vraiment par des actes, par un changement d'attitude, parce que, comme on va le voir, on est quand même immergé dans un monde qui est malgré tout entre les mains, maîtrisé, mais entre les mains de l'ennemi. Et donc, moi, je vous propose de voir maintenant, justement, quelles sont ces doctrines des démons. Comment on peut discerner leur action ? Et de voir quels sont leurs domaines de prédilection aujourd'hui, et pour finir, vraiment, comment on peut vaincre, bien sûr, spirituellement. Et on l'a déjà dit, c'est un sujet qui est extrêmement délicat. Il a été sujet à beaucoup d'interprétations. Et tout simplement parce qu'il concerne des autorités qui sont vraiment douées pour la manipulation des masses et puis le mensonge. On l'appelle le diable, le père du mensonge. Et nous devons garder à l'esprit que ces mêmes autorités étaient là avant Adam et Ève et qu'au fil de l'histoire de l'humanité, elles ont acquis une expertise de plus en plus éclairée sur les hommes et plus particulièrement après Christ sur les chrétiens. Et ces dominations et autorités dépourvues de sagesse divine ne peuvent connaître cette sagesse aujourd'hui que par l'Église, nous dit l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 10. Et pourquoi sont-ils avides de cette sagesse? Tout simplement parce que cela leur permet d'entrevoir le plan du salut qui est parfait, le plan du salut parfait de Dieu à l'égard de ses créatures. Et ça, c'est pour le copier, voire le déformer, ou le faire oublier, et bien sûr le combattre. Et fort de cette expertise accumulée à travers les âges, et dans la limite de leurs possibilités, nous allons le voir, elles manipulent aussi le monde. Donc nous pouvons donc nous aussi nous laisser manipuler par des courants de pensée et des raisonnements faussés. Comment discerner alors quelles sont ces doctrines et les moyens qu'utilisent ces démons? Et il me semble que ce sujet particulièrement, il faut refuser de l'aborder avec des considérations humaines. Le chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens précise que ce qui touche au domaine spirituel ne peut être jugé que spirituellement. Humainement, nous sommes tous capables de relativiser les choses. On peut faire des compromis. On peut tolérer quelques discours erronés. Cependant, à ce sujet, c'est très clair. 2 Corinthiens 6, 14, « Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Et verset 15, « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ?» Ce sujet donc des doctrines des démons ne tolère aucun compromis. Alors qu'il nous est demandé de pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois des hommes et de considérer notre frère supérieur à nous-mêmes, quoi qu'il pense. Il nous est demandé de considérer, il ne nous est pas demandé de considérer justement le diable supérieur à nous-mêmes, mais plutôt de lui résister, et il s'enfuit. Aucun pardon ne peut lui être accordé, ni par Dieu, et encore moins par nous, ses enfants. Nous y reviendrons dans un moment, mais nous sommes là au cœur du ministère de l'Église, qui consiste à ne pas nous combattre, nous, entre frères, mais justement à mener notre combat contre les principautés et autorités. Verset d'Éphésiens 6. Et juste avant ce verset, ce passage des Éphésiens évoque justement les ruses du diable. Et la première ruse du diable est de nous faire croire qu'il est beaucoup plus puissant qu'il est vraiment. Un peu comme les paons, vous voyez les paons, les animaux, qui dressent leurs belles plumes pour subjuguer leurs adversaires alors qu'ils sont sans force et beaucoup plus petits qu'ils le sont. Et John nous a parlé d'Ésaïe 14. Je veux l'afficher, ce passage d'Ésaïe 14. Et c'est facile, hein, deux passages importants, Ésaïe 14, Ézéchiel 28, 2 fois 14, 28, enfin bref, pour vous souvenir. Mais qui précise justement que le diable est sans force et qu'il a été précipité sur la terre et qu'il est désormais couvert de ver, nous dit ce passage. Comme la nature nous l'enseigne, souvent les espèces sans force recourent à la ruse pour subsister. Et c'est justement cette stratégie que le diable a choisi d'utiliser. Ainsi, le diable, sans force, a réussi à travers les âges à faire croire qu'il était semblable à Dieu. Il a ainsi réussi à focaliser toutes les peurs des hommes sur lui. Et ainsi, les hommes ont davantage peur du diable que de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous devons le mépriser ou même l'injurier, attention, mais simplement le considérer réellement tel qu'il est. Je pense que vous avez lu ce passage. Juste, je souligne ce verset 16. « Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes ?» Ce passage illustre parfaitement la surprise des hommes lorsqu'ils découvrent qui il est vraiment. Alors pour nous croyants, ne soyons pas surpris. Sa principale ruse est donc de focaliser sur lui toutes les craintes. Et ça ne dérange surtout pas. Au contraire, il fait donc croire, hein, comme John l'a évoqué, l'a rappelé, que c'est lui qui est responsable de nos mauvaises actions. Alors que c'est plutôt notre ancienne nature qui a tiré naturellement vers le péché. En voulant focaliser ainsi toutes les attentions sur lui, il fait croire qu'il est le seul. Qu'il est seul et permet alors à d'autres esprits avec des doctrines spécifiques d'agir à découvert. Et c'est ce que je vous propose justement de voir maintenant. Et au préalable, je voudrais encore montrer un verset, et c'est une parole de l'Esprit. Il s'agit de ce verset d'1 Timothée 4, verset 1. « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Et là, je remarque deux choses dans ce verset. « Abandonner la foi. » Il n'est pas dit « abandonner le salut ». Mais la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines démons, comment est-il possible d'abandonner la foi? Alors croyez-le, c'est très simple. Tout simplement en refusant de donner notre confiance à Dieu, mais plutôt pour nous tourner vers d'autres doctrines plus séduisantes au premier abord. Alors quelles sont ces doctrines? Et d'où viennent-elles? Le prophète Daniel, dans le chapitre 7, au verset 2, nous partage une de ses visions où apparaissent quatre vents des cieux qui font éruption sur la mer. Ces quatre vents, ou esprits, soufflent sur la mer, qui est une image du monde sans Dieu, et ces esprits ont donc comme rôle d'orienter à leur guise les peuples, les nations. Et en ressort finalement quatre royaumes différents et plus méchants les uns que les autres. Et ce ne sont pas les vents qui ont généré directement ces royaumes, car ils n'ont pas forcément la puissance, on l'a vu. Mais par leur influence sur les sociétés, sur les hommes, toutes ces nations ont fait naître des pouvoirs politiques et militaires hostiles au peuple de Dieu. Là encore, ce serait trop facile de dire, et surtout faux de dire que c'est le diable qui a la puissance de créer de tels animaux. Non, ces animaux sont issus de la mer, c'est-à-dire que ces royaumes sont instaurés par les hommes, mais néanmoins sous l'inspiration de ces quatre esprits. Alors, pour ceux que ça intéresse, ces vents, en Apocalypse 7, ils sont retenus pour laisser libre le chemin aux 144 000. Et puis, ils sont à nouveau libérés au chapitre 9, et ça, avant que le tiers des hommes soit tué. Et en attendant, nos sociétés modernes sont toujours sous l'influence de ces vents. Alors, une nouvelle fois, ne cherchons pas à déresponsabiliser les hommes, et nous avec, en pensant que c'est le diable qui agit, et qu'il a la capacité de générer de toutes pièces des systèmes, voire des pouvoirs hostiles aux chrétiens. Sans des hommes réceptifs à leur doctrine, les ennemis de Dieu n'ont pas les moyens de mettre en place leur stratégie. C'était déjà le cas dans le jardin d'Eden, on l'a vu, lorsque le diable n'a fait que suggérer l'intérêt du fruit défendu et a trouvé Adam et Ève réceptifs à sa doctrine. En revanche, c'est le rôle du chrétien et de l'Église de mener ce combat contre ces autorités spirituelles et de renverser tout raisonnement et hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 5 nous dit ça. Ces autorités au raisonnement se manifestent sous différentes formes. Peut-être, il y en a même certaines qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui. Et c'est plus que jamais notre rôle en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, de les démasquer pour se dégager des pièges du diable. Cherchons maintenant à discerner par la parole quels sont ces quatre vents ou doctrines démoniaques qui ont une influence sur les nations. Jésus évoque le risque de suivre Mammon. Jean nous dit que l'Antichrist est déjà dans le monde. Paul nous dit que Satan se déguise en ange de lumière et que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Donc c'est une présentation rapide de ces quatre esprits qui cherchent à influencer notre monde. Sont-ils si faciles à démasquer? Compte tenu des nombreux avertissements à leur encontre qu'il y a dans la parole de Dieu. Je pense, mais faut-il l'entendre, cette parole? Et un autre passage qui évoque ces quatre influences sur notre monde et donne un peu plus de précision sur leurs spécificités. Et il s'agit des sept premiers versets du chapitre 6 de l'Apocalypse, lorsque Jean voit l'agneau ouvrir les quatre premiers sceaux, où apparaissent les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Et le premier cavalier, sur son cheval blanc, est le parfait portrait de Satan, qui essaye justement de se faire, dans son habit blanc, comme un astre brillant, de se faire passer pour Christ, avec son arc, sa couronne. Mais pourquoi besoin-t-il de montrer sa couronne? Alors qu'on sait que Christ, déjà, lui, il est couronné de gloire et d'honneur. Cet ange de lumière, il est doué pour attirer vers lui, justement par tout ce qui est l'occultisme, le spiritisme et toutes les fausses spiritualités, les personnes qui sont à la recherche d'une guérison de l'âme ou même du corps. Jean n'a pas vu sa victoire, tout simplement parce qu'elle n'a pas eu lieu. Néanmoins, sans aucune état d'âme, cet ange de lumière est parti en vainqueur pour mieux subjuguer les hommes. Le second cavalier, avec son cheval roux, semble être l'Antichrist, qui avec son épée sème la terreur sur la terre et attise les conflits meurtriers envers les hommes. Son objectif en premier lieu est de répandre la désolation par la guerre et de faire en sorte que le peuple de Dieu soit en premier visé par les persécutions et les attentats sanglants. L'Antichrist est avide de sang, non pas pour sauver lui, mais pour exterminer. Et il attend qu'une chose, c'est que la paix laisse la place à la vengeance et pour que la situation puisse s'aggraver de plus en plus. Ce qui caractérise le plus l'Antichrist est sa violence à l'encontre des enfants de Dieu. Et cela l'amènera jusqu'à la bataille finale, où il sera vaincu par le Messie. Sa stratégie est donc de manipuler les peuples pour que des pouvoirs politiques émergent pour s'opposer finalement au peuple de Dieu. Le troisième cavalier avec son cheval noir semble être Mammon, qui avec sa balance veut tout poser. Un sou est un sou, et surtout il n'est pas question d'effacer la dette des plus pauvres. C'est le pouvoir de l'argent, avant tout, qui justifie la spéculation au détriment des hommes, qui ont de plus en plus de mal finalement à vivre dignement. En revanche, nous parler de l'huile, du vin, la consommation, les plaisirs, le luxe, voire la débauche sont encouragés pour justifier toujours plus le besoin d'argent. Son but est de maintenir les hommes loin des réalités spirituelles en mettant en avant le matérialisme seulement. Enfin, le dernier cavalier, avec son cheval verdâtre, affiche clairement son nom. Il n'a pas peur, lui, c'est la mort, qui par tous les moyens qu'il a, veut ôter des vies. On l'a vu, c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Il veut ôter des vies pour qu'elles ne puissent pas être mises en contact avec la parole de Dieu et ainsi être sauvées. Sa doctrine, c'est la vulgarisation de la mort, avec ses idées que la vie n'a pas de prix, que c'est qu'un jeu, on en a d'autres, ou qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Bien sûr, ces esprits n'auraient pas eu droit de citer dans la parole s'ils n'avaient pas trouvé un intérêt dans le cœur des hommes. Toute la Bible regorge d'histoires d'hommes, de femmes, captées par ces doctrines étrangères et opposées à la pensée de Dieu. Les exemples les plus frappants sont pris, vraiment mauvais exemples, dans les écrits du Nouveau Testament. Ève, Jézabel, Caïn, Hyménée, Alexandre, Balaam, Judas, les fils de Corée ont été tour à tour captés par les fausses doctrines. Alors pour nous, où en sommes-nous? Nous sommes dans un monde totalement imprégné de ces doctrines. Nous n'avons qu'à voir les films, les jeux, les distractions. Dès le plus jeune âge, les enfants sont ainsi la cible. Et nous-mêmes, nous nous satisfaisons bien de tout ce que ce monde nous donne. Sans toujours voir comment se tissent ces raisonnements contraires à la foi. Ainsi, mes frères, mes sœurs, n'abandonnons pas la foi. En mettant notre confiance dans les richesses de ce monde, en mettant notre confiance dans des pratiques médicales douteuses pour obtenir une guérison, en partant en guerre contre nos frères au lieu de faire confiance à notre Dieu. Voilà où se situe notre responsabilité. Et ce n'est pas celle du diable, car ce sont bien nos choix personnels de vie que cela concerne. Nous médions donc dans cette atmosphère particulière où nous finissons complètes, où nous pouvons justement finir complètement désorientés, flottant, emportés par tout vent de doctrine, dit Paul à Timothée. Nous avons donc besoin de discerner les temps et de démasquer tous ces pièges. Pour cela, il nous faut de la nourriture solide. Juste afficher ce passage d'Apocalypse, ce qui est dit à l'ange de l'église de Laodicée. Il nous faut acheter de la nourriture solide. Il faut acheter du collyre pour oindre nos yeux, afin que nous voyions les signes des temps, et plus encore que nous ayons du zèle. C'est donc seulement spirituel que nous pouvons juger ces choses. Et justement, nous sommes du côté de ceux qui ne seront pas jugés. Dieu nous a rachetés de la colère et nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous l'avons rappelé, toutes les choses visibles et invisibles ont été créées par lui et pour lui. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous donner à notre tour cette dimension spirituelle et ainsi appréhender à un tout autre niveau le bon combat de la foi. Imprégnons-nous donc de toutes ces promesses de victoire et pour cela, nourrissons-nous de ce qui est vrai. C'est notre rôle en tant qu'enfants de lumière de mener ce combat contre les principautés et autorités. Pour cela, prenons du temps au préalable de nous équiper de toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux mauvais jours. Une majorité de ces armes sont défensives. Tout comme Néhémie, n'oubliez pas, on a reçu ce message, Néhémie. Je pense, levons-nous et bâtissons ces fortifications qui sont mises à mal par tous ces vents de doctrine. Et nous pouvons être à notre tour prêts pour renverser les forteresses. Juste ce verset que je veux vous laisser, de 2 Corinthiens, il n'y en a plus, je ne l'ai pas mis, bon. Ben, je vais vous le lire. 2 Corinthiens 10, verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Oui, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Fortifions-nous, fortifions nos défenses pour mieux justement détruire ces forteresses qui s'élèvent comme un rempart. On ne sait pas la suite, mais je pense que la parole est là, elle éclate à nos yeux. Rentrons quand même dans ces promesses de victoire. Bien sûr, n'ayons pas forcément peur du diable, il est vaincu, on l'a dit. Ne jouons pas aussi avec lui, c'est une évidence. Et moi je suis convaincu et nous sommes convaincus que le Seigneur nous appelle à mener ce combat en tant qu'Église. On est peut-être tout petit, on se sent misérable par rapport à ce programme qui est devant, mais en tous les cas c'est notre rôle, c'est notre ministère ici à Prévesin. Il y a des personnes qui se perdent, il y a des personnes qui sont harcelées par des mauvais esprits, la mort qui veut les attirer. Menons ce combat contre ces principautés, autorités, parce que franchement, cette vie-là, elle vaut la peine d'être vécue aussi pour eux. Je terminerai par la prière. Oui, notre Dieu, merci pour ta parole. Et merci parce que pour ton plan d'amour, ton plan parfait, tu veux nous faire aller jusqu'au bout de ce plan. Et c'est vrai, tu nous appelles à mener ce bon combat de la foi. Tu nous as révélé par le passé que nous sommes souvent trompés de cible. Et nous voulons aussi te demander pardon pour cela. Nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où on a laissé justement l'ennemi prendre pied, prendre racine peut-être dans nos vies sur certains points. Et tu sais, il y en a encore beaucoup peut-être des points où il a sa main mise et nous voulons te prier que tu nous révèles surtout comment arriver à délier cela, Seigneur. C'est toi qui as cette puissance de délier les choses et nous voulons nous attendre à toi. Et nous voulons surtout te rendre grâce parce que tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous révèle des choses, nous manifeste dans chacune de nos vies ce qui dysfonctionne. Et nous voulons encore faire appel à lui, comme on l'a chanté ce matin, pour qu'il souffle au-dessus de nous, pour qu'il souffle en nous, justement, ce vent qui puisse nous mener à la victoire totale. Merci parce que ton royaume est en marche déjà ici-bas. Merci parce que tu veux attirer encore des personnes qui sont sous le joug sous la servitude, et que tu veux délivrer, que tu veux amener ici dans l'Église. Vraiment, ce matin, nous voulons te prier encore pour eux, pour que tu te manifestes dans leur vie, et pour que tu te manifestes avec puissance et avec force, pour qu'ils puissent se tourner vers toi. Merci en tous les cas de faire de chacun de nous tes ouvriers, là où tu as la place que tu as placée, que tu as choisie pour chacun de nous, que nous y entrons aussi simplement et avec foi et confiance. Au nom du Seigneur Jésus, amen.
Merci à John et Pierre pour ce que vous nous avez partagé, ce que vous nous avez apporté. Vous nous engagez, vous nous proposez de nous engager dans le bon combat et c'est ce que je veux faire aussi en vous partageant les annonces. Tout d'abord, une première annonce pour une activité qui s'est déroulée il y a environ 2 semaines ici, la réunion de membres de fin septembre. Alors, les notes de cette réunion sont sur le site internet, donc chacun de ceux qui ont un accès au site peut les télécharger et les regarder. Si quelqu'un n'a pas d'accès internet, n'hésitez pas à demander soit à Pierrick, soit à nous-mêmes, et on vous en fait volontiers une copie papier. Le programme de la semaine. Lundi, Femme Club, chez Rebecca, à 14h30. 14h, excuse. Lundi donc, Femme Club à 14h. Lundi soir, conseil, c'est aussi une demi-heure plus tôt, 19h30. Mardi, cellule de Prévesin à 20h30 chez Emmanuel et Rebecca. Mercredi, la chorale ici. Jeudi, les cellules de Gex et de Collonges. Alors la cellule de Gex, chez Uli et Daniela. La cellule de Collonges, Pierre. Chez Philippe et Christiane Zamora. Samedi, groupe d'ados à 14h30. Samedi, en fin d'après-midi, explosion de louanges. Donc à la salle des fêtes de Gex à 17h. Samedi soir, groupe de jeunes. Dimanche, culte ici. Ensuite, pour la semaine d'après, le mardi après-midi, il y aura l'étude biblique des aînés. Et puis le dimanche d'après, donc dans deux semaines, c'est tout de suite bientôt là, culte de baptême. Culte de baptême, donc ici à 10h30, qui sera suivi d'un pique-nique ou d'un partage ensemble, d'un repas ensemble. Et ensuite, à 17h, on aura ici, j'ai mis une affiche au fond, on aura donc une pièce de théâtre qui s'appelle Marc l'Expérience, qui est donc une pièce de théâtre qui est organisée par l'église ménonite de Saint-Genis. Donc il y aura déjà une première représentation le samedi soir à la salle de l'Alondon à Saint-Genis-Pouilly à 20h, et le dimanche, donc ici dans cette salle, à 17h. Ensuite, des nouvelles de Brian et Hélène. On a vraiment du plaisir à vous voir ce matin avec nous, partager ce moment de culte. Vous avez remarqué que Brian a encore bien besoin des béquilles. Alors, ne le bousculez pas trop. On aimerait qu'il rentre encore entier à la maison. Concernant Brian et Hélène, Lydie a mis en place un service pour leur préparer des repas. Pour leur préparer deux repas par semaine, c'est important de les aider en ce moment. Alors, il s'agit donc de préparer des repas sans gluten. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ben, ma foi, c'est l'occasion de commencer. Alors, j'ai mis au fond de la salle un panneau pour s'inscrire. Donc, les inscriptions sont organisées par semaine. Donc, il y a besoin donc, de deux repas, donc deux personnes qui s'inscrivent pour la semaine qui vient déjà. Et ensuite, pour les deux semaines suivantes, et puis pour la suite, on verra encore. Donc n'hésitez pas de vous inscrire, c'est important, surtout pour la semaine qui vient parce que c'est tout de suite, hein. Et puis si vous avez toute question pratique, surtout par rapport au repas sans gluten ou qu'est-ce qu'il faut comprendre dans les repas, etc., n'hésitez pas à contacter Lydie ou bien vous pouvez aussi demander à Brian et Hélène, mais c'est peut-être plus simple de les décharger de ça, de leur laisser tout le plaisir de partager, d'échanger avec les uns et les autres ce matin. Ensuite, une annonce concernant la fête de Noël.
On va y arriver à mettre la musique pile poil quand il dit fête de Noël, d'ici quelques semaines. Cool. Bonjour à tous, ça va ? Oui. D'accord. Donc oui, c'est l'annonce de la fête de Noël. Et j'ai besoin d'un acolyte spécial qui doit être prêt normalement. Mais Aurélie ? Ah, il est marrant. Ça. Je pensais pas que c'était si moche que ça.
Pourquoi c'est moi qui mets le costume ?
Parce qu'on dit une étoile. Voilà. Mais tu peux l'enlever, c'est bon.
Je fais une petite démo ou pas ?
Oui, vas-y, montre-leur. Voilà. Alors, c'est un des acteurs de la pièce.
Je fais l'étoile alors.
Voilà, fais l'étoile.
Ok, je fais l'étoile.
Il n'y aura pas grand-chose à faire. Hein. Faut être souriant. Voilà.
Je...
Voilà, ça vous donne un peu le ton. Est-ce qu'on arrive à... Ouais, on voit plus ou moins. Alors voilà l'affiche de cette année. Si vous arrivez à la lire et à la comprendre sans tourner vos têtes, chapeau. Donc la pièce s'appelle Ding Dong. Et nous avons besoin, comme chaque année, puisqu'une pièce ne se fait pas sans acteurs, d'acteurs, de comédiens et beaucoup de figurants aussi. Donc on a mis au fond une petite liste où tout le monde peut s'inscrire, jeunes et moins jeunes. Les écoles du dimanche et le groupe de jeunes sont inscrits d'office, donc c'est surtout vous dont on a besoin. Il reste encore de la place pour d'autres activités, c'est-à-dire les groupes qui vont réaliser les costumes, les groupes qui vont réaliser la déco, les groupes qui vont réaliser... qu'est-ce que j'ai oublié ? Oui, la technique, le buffet. Oui, mais alors ça, il y a du monde hein, pour préparer. Hein, on voit ce qui vous intéresse, quoi, c'est pas mal. Et puis, ce qui est important, c'est que c'est dans un mois et deux semaines. Donc dépêchez-vous de vous inscrire, parce que la première lecture du script se fera dimanche prochain. Donc on va faire une italienne avec tous les gens qui sont intéressés. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une italienne, c'est une lecture du script. Voilà, en plus vous apprenez des choses. Et donc tous ceux qui s'inscrivent sur la petite liste du fond sont invités donc dimanche prochain à 17h, merci Noémie, à venir ici pour lire. Vous aurez chacun un script qui vous sera envoyé si vous mettez votre adresse email, sinon tant pis. Et donc vous pouvez voir un peu les rôles de figurants et évidemment un petit peu de quoi ça retourne parce que c'est pas très évocateur ça encore. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose ?
Pour les acteurs, on vous invite vraiment à venir même voir, si vous voulez, quand on fait la lecture du script. Et je pense qu'il y en aura pour tout le monde, un peu comme l'année passée. Il y aura des gros rôles. Ce sera un peu moins gros que l'année passée, mais il y aura quand même 3-4 rôles avec pas mal de textes. Et sinon, on a plusieurs petits rôles et des rôles de figurants. Donc vraiment, si vous êtes intéressés, venez. Ça va être sympa. Donc,
C'était super sympa l'année passée. Alors, ça peut être que mieux. Et en plus, on a déjà un inscrit. Et vous le savez, c'est Nabel. Donc vous connaissez peut-être pas encore Nabel. Non ? Vous l'avez déjà rencontré ? Il vient pas souvent au culte. Hein. C'est parce que c'est un chien, c'est pour ça. Sinon, et ben, je crois que c'est tout. Donc rendez-vous dimanche prochain pour le culte. Et puis aussi pour cette italienne. Et puis, si je peux juste préciser encore... Venez le 13 samedi à Explosion de Louange à Gex, ça vaut vraiment le coup, c'est les 20 ans de l'église de Gex et on joue avec eux, donc ça va être un moment de louange phénoménal. Pour bien vous préparer au dimanche matin, venez.
Merci pour cette annonce qui nous donne envie, en tout cas je l'espère, à participer à cette pièce de théâtre de Noël. Je vous invite à vous lever, puis je vous lis encore deux versets pour conclure notre culte. Des versets qui se trouvent tout à la fin de l'Apocalypse. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », disent au Seigneur Jésus « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses dise « Oui, je viens bientôt ». Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.